Christophe Bourseillet.
C'était beau, hein.
C'était pas mal. Bah,
oui,
bah, ce qui va venir est pas mal non plus.
Mmh. Yeah. Une semaine en cours, les yeux bloqués sur la pendule. Un samedi soir, 5h du mat, du whisky coca sans bulle. Un pause cap dans le bus, pour marquer ton territoire. La même histoire depuis 3 ans, avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Un taf qui pue, la lassitude et la friture. Un fils de pute de patron qui mérite qu'on lui crache à la figure. Perdu entre les bonnes meufs intouchables, les beaux gosses populaires, les petits bosses
Orelsan, No Life, c'est le titre. Pourquoi ce choix, Christophe, ce matin?
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Eric, mais depuis le début des années 2000, on voit se répandre une expression populaire visant à désigner ceux et celles qui mènent une vie minable, une vie sans couleur, sans odeur, sans rêve ni aspérité, comme dans la chanson d'Orelsan. Alors ces Pékinsis se distinguent des autres par le fait qu'ils sont généralement scotchés du matin au soir à un écran. Ils ont fait leur choix. Délaissant le monde réel, ils ont résolument opté pour l'abstraction du virtuel, et on les nomme donc, en anglais dans le texte, des pas de vie, des no life.
Et il est sorti un livre sur les no life.
Oui et non, Karine, en réalité. Oui, figurez-vous que dans le flot des romans de la rentrée de janvier 2022, j'ai glané un bien curieux texte signé d'un personnage lui aussi un peu spécial. Je veux parler de Quentin Bruet-Ferréol. Alors je vous dis qu'il est curieux, Karine le poteau, pour une raison baroque, il a monté, et c'est assez original, un cabinet de curiosité spécialisé dans les objets sectaires et ésotériques. Vous voyez le type. Or donc, si fait et conséquemment, le bougre vient de publier « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit ». Et il y narre en détail un drame sectaire survenu en 1997. Alors si je vous dis Heaven's Gate, la porte du paradis, ça vous dit quelque chose?
Franchement, il faudrait me rafraîchir la mémoire, Christophe.
Alors Eric, il s'agit précisément d'un culte sectaire ufologique. Et le 26 mars 1997, c'est tout à fait authentique, 39 adeptes de la secte américaine à Heaven's Gate se sont empoisonnés après avoir soigneusement fait le ménage dans leur demeure. Alors pourquoi ils étaient persuadés de ressusciter immédiatement dans un vaisseau extraterrestre? Si ils croyaient dur comme fer aux aliens rédempteurs et prétendaient communiquer avec eux, et donc ils ont techniquement profité du passage à proximité de la Terre de la comète Al-Bopp pour transférer leur âme au moyen d'un suicide, du moins le croyaient-ils. Atroce, me direz-vous?
Un peu, ouais.
Je dirais même plus atroce. Et Quentin Bruet-Ferréol nous conte non seulement le massacre, mais encore l'histoire complète de la secte.
Et donc, qu'est-ce qu'il découvre en particulier?
Eh bien, c'est là où j'arrive à mon sujet. Il réalise que les adeptes de Heaven's Gate sont avant tout des no-life. Eh oui, parce que pour rejoindre la secte, il fallait abandonner les plaisirs de la vie pour expérimenter une existence terne, la plus terne possible, monotone, voire grisâtre. Normalum, puisque dans l'esprit du gourou Marshall Applewhite, lui aussi suicidé bien sûr, la vie sur Terre ne vaut rien, seul compte l'accomplissement astral quand on sera tous sur un vaisseau extraterrestre. Allô la Terre.
Ouais, c'était donc des no-life. Est-ce que le phénomène est répandu aujourd'hui?
Diablement, Eric. Il faut savoir que l'expression no-life a vu le jour avec l'avènement des jeux en ligne et des jeux de rôle. Quand on a observé un inquiétant phénomène, des milliers de jeunes se focalisaient à l'extrême sur l'écran en abandonnant toute vie sociale. D'où l'image de l'obèse blême aux yeux injectés de sang qui se fait livrer des pizzas.
Évidemment.
Pour ne jamais décrocher de l'écran, bien sûr. Il faut dire que la pratique intensive de l'ordinateur est, paraît-il, très mauvaise pour l'œil. Sachez qu'un être humain devant un écran cligne 6 fois par minute, il paraît que c'est pas bon, donc beaucoup plus qu'un clampin au grand air.
Et y a-t-il des no-life partout?
Bizarrement, Eric, les Japonais, ça c'est curieux, sont à la pointe du phénomène. Les drogués au monde imaginaire, ils sont désignés au Japon comme des Ziki Komori. Alors en 2019, je prononce bien, en 2019, on a recensé au Japon 1 million de hikikomori. Alors le plus étonnant, c'est que la maladie touche des gens de 15 à 64 ans, donc c'est très large. On observe par ailleurs que la plupart des hikikomori, donc, ont été victimes de harcèlement scolaire ou de harcèlement moral. Et ceci m'amène à un point essentiel. Les no-life fuient et refuit. Mais que fuit-il? Réponse, il fuit la violence, la folie, l'absurdité de ce monde. Le problème, c'est qu'il se réfugie dans un monde virtuel régi par les GAFAM, les grosses boîtes qui dominent le web. Résultat, le monde dans lequel évoluent les no-life est en fin de compte bien pire que le monde réel qui pourtant est déjà pas facile. Et donc, délaissant le purgatoire, les no-life explorent, c'est la conclusion, les enfers.
Un pause cap dans le bus pour marquer ton territoire. La même histoire depuis 3 ans avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Un taf qui pue, la lassitude et la friture. Un fils de pute de patron qui mérite qu'on lui crache à la figure.
Les no life selon Orelsan et selon Christophe Bourseillet dans ce monde qui nous rend fous.